Voilà, il était, c'est-à-dire qu'il rasait la barbe, comme un barbier, et également il était capable de soigner ou d'opérer les gens. Dans le Barbier de Séville, c'est les retrouvailles entre Figaro, le valet, hein, qui est un valet de comédie, c'est-à-dire malin, intelligent, rusé, etc., vif. C'est donc les retrouvailles entre ce valet de comédie et son ancien maître, qui est le comte Almaviva. Il retrouve donc le comte Almaviva au pied d'une maison, et Almaviva est amoureux d'une jeune fille, une jeune orpheline, dont s'est chargé un docteur qui s'appelle Bartolo. Et Bartolo veut garder la fille pour lui. Figaro va aider son maître à faire la conquête de Rosine, la jeune fille qui va devenir la comtesse dans le mariage, qui est devenue la comtesse dans le mariage de Figaro. Donc le Barbier de Séville, ça se termine par le mariage entre Rosine, qui deviendra la comtesse, et le comte Almaviva. Pour le remercier son valet, le comte Almaviva, dans le mariage de Figaro, on voit qu'il a la reconnaissance facile. Il va essayer de sauter, guillemets, Suzanne, Suzon, la nuit de noces, c'est-à-dire d'exercer son droit de cuissage sur sa domesticité, sur ses domestiques, c'est-à-dire le droit de passer avant le futur marié, enfin avant le marié déjà à moitié, droit qu'il a déjà aboli sur ses terres. Mais là, il va réveiller plus ou moins ce droit-là, non pas en disant j'ai le droit, mais en courtisant Suzon et en essayant d'obtenir ses faveurs. Et puis, vous avez vu la petite scène entre Chérubin, le petit page, et celle qu'il croit être Suzon. Mais non, ce n'est pas la femme de Chérubin. Donc le petit page croit draguer Suzon. En réalité, il va embrasser la comtesse. Et vous ne saviez pas que d'embrasser une femme, on peut lui faire des bébés comme ça. Puisque dans la troisième pièce de la trilogie, La mère coupable, eh bien c'est la comtesse qui aura eu un enfant. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait en l'embrassant, qui aura eu un enfant de Chérubin. D'accord ? Bon, cette troisième pièce, La mère coupable, est jouée beaucoup plus rarement, beaucoup moins connue. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a également une suite. Voilà, donc c'est pour cette histoire de pas très nette, de beau-père, etc. Julien, on t'écoute.
Figaro. Dans le premier, il a l'absence de décor, mis à part un tabouret, que les filmer dans une pièce de théâtre. Le second a été diffusé à la télévision.
Pas dans une pièce, dans une salle de théâtre.
On aperçoit la façade de Figaro et de Jordan. Ce sont tous deux des monologues dans le jeu lexical sur les femmes et le mariage.
Oui, ben c'est bien, tu me donnes l'occasion de développer autre chose. Donc les deux extraits sont pas identiques. On a un extrait beaucoup plus long dans le deuxième. Autant dire qu'on a la totalité du monologue de Figaro. Alors, en dehors du fait que le premier comédien joue plus sur la colère, sur quelque chose d'un peu violent, sur les silences également, il y a des moments où il se tait assez longuement. Autant Jean-Pierre Cassel, lui, qui joue sur les nuances, on l'a déjà dit, joue également sur la rapidité, pour montrer la vivacité de ce valet de comédie, hein, pour montrer qu'il a l'esprit vif. Il dit lui-même aussi qu'il est joyeux, hein, que c'est quelqu'un de gai, bien qu'on soit ici dans un moment triste, puisqu'il se croit trahi par celle qui est en train de devenir sa femme, c'est-à-dire par Suzon. Donc, dans le jeu théâtral de Jean-Pierre Cassel, en dehors de la vivacité, en dehors de la variété d'intonation, correspondant aux sentiments et collant aux situations intérieures ou mentales du texte. Vous avez un jeu qu'on pourrait appeler naturel, pas théâtral, naturel, presque comme dans la vie, sauf que vous avez remarqué quand même que la double énonciation, ici, il est fréquent que Jean-Pierre Cassel regarde la caméra, quoi. C'est-à-dire nous regarde-nous public, comme s'il nous faisait une confidence à nous. C'est une situation du monologue. Hein. Disons que cette double énonciation peut être particulièrement sensible au cours d'un monologue. Puisque, évidemment, quand vous avez un dialogue, les personnages ont plutôt l'air de se parler l'un à l'autre. Ce qui voudrait dire que, théoriquement, au théâtre, vous auriez, par rapport au public, des personnages que vous verriez de profil et qui se parlent comme ça. Néanmoins, la plupart du temps, dans les traditions théâtrales, eh bien, on les tourne comme ça. C'est-à-dire que, bien que se parlant, les comédiens sont assez souvent face au public, pour une raison simple, pour qu'on entende ce qu'ils disent. Hein, parce que s'ils sont de profil, le son va partir dans les coulisses, et il ne va pas partir dans la salle. Hein, c'est pour ça qu'on conseille souvent aux comédiens de rester face au public quand ils parlent, surtout pas de leur tourner le dos, parce que le son il va partir vers l'arrière. Bon. Néanmoins, quand des comédiens ont une bonne maîtrise, on est capable de se mouvoir relativement librement sur la scène, hein, et pas toujours rester garde à vous face au public, hein, parce que c'est une contrainte aussi, ça. C'est une contrainte. Alors j'ai perdu le fil là, de mon histoire. Oui, sur le jeu de Jean-Pierre Cassel. Donc, il joue nature. Néanmoins, son jeu est marqué aussi par l'époque, hein, 1960, pas loin de l'époque de Gérard Philippe, en opposition avec un acteur metteur en scène de théâtre, également Louis Jouvet. Louis Jouvet, lui, conseillait plutôt de jouer à plat, c'est-à-dire sans souligner les sentiments, rien du tout, le texte. Et c'est le texte qui doit éveiller les sentiments chez l'auditeur. Si on remonte un peu, au XIXe siècle, on déclame, hein, les textes. Hein, c'est-à-dire, on exagère le ton en quelque sorte. Oh mon cher, etc. Ouais, d'accord. Au XVIIe siècle, la période classique, c'est presque chanté, on est presque à l'opéra. C'est encore plus fort que ça, quoi. Hein? Les textes, en particulier les textes de tragédie. Hein? Dans la comédie, le ton est plus naturel. Là, on est plutôt dans une comédie. Hein? Ou disons dans quelque chose qui approcherait du drame, mais c'est présenté comme une comédie. Et c'est pour ça, c'est ce qu'a souligné à un moment Jean-Pierre Cassel quand il dit « Voici venu l'instant de la crise hein, !» On voit bien qu'il prend une distance par rapport à ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire, il vous dit « Bon, le théâtre, c'est du trafiqué, quoi, en quelque sorte, c'est du fabriqué. Hein. » Alors, donc on est toujours sur la façon de jouer de Jean-Pierre Cassel. Une façon de jouer naturelle, à ce détail supplémentaire près que, bon, on a dit tout à l'heure, il joue en décor naturel, c'est-à-dire il court, etc. Donc il est essoufflé, donc il respire, donc il est vivant. Hein? Donc ce qu'on conseille aussi aux comédiens, c'est quand on dit un texte, de prendre le temps de respirer pour montrer qu'on est vivant, qu'on n'est pas une marionnette de Guignol. Donc vous avez cet essoufflement, cette respiration, et au-delà de cette respiration, vous avez aussi une vibration dans la voix, hein, destinée à marquer l'émotion, un peu de, comme dans le jeu de Mounet Sully ou dans le jeu de Sarah Bernhardt, que j'ai évoqué tout à l'heure au 19e siècle, sauf que cette émotion, elle n'est pas soulignée, enfin elle n'est pas marquée par une déclamation. Toi, enfin, tu arrives! Non, on n'est pas là. Hein? Mais c'est dans la voix une légère vibration qui marque l'émotion, je dirais, encore une fois, comme dans la vie. Hein? Et quelqu'un qui est ému, vous allez sentir une légère vibration dans la voix, hein, qui est du même genre, finalement, comme indication, que la respiration, ça veut dire, c'est un être. Alors la respiration, vous le disiez, c'est quelqu'un de vivant, puisqu'il respire. La vibration, ça vous dit, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de sensible. Il a une, c'est pas un bout de bois, il a, ou elle a, une sensibilité. Hein. Voilà. Qui ça? Non, c'est Chérubin, c'est le petit page. Oui, alors si. Alors si. Non, c'est pas le valet, c'est un page. Hein? Tu chercheras la différence entre... Alors qu'est-ce que c'est qu'un page par rapport à un valet? C'est l'âge. Hein? Le valet, c'est un adulte qui travaille. Alors le page, c'était autrefois, dans le domaine de la chevalerie, c'était l'apprenti écuyer. Hein? Par exemple, le chevalier Bayard va être page d'abord, c'est-à-dire c'est un jeune gamin, hein, qui accompagne le chevalier, etc., ici le comte. Il va servir à quoi là? Il va servir de coursier, apporter un message ou des choses comme ça. Hein. Sauf qu'à un moment le comte, il en est un peu jaloux et qu'il envisage de l'envoyer à l'armée pour qu'il se fasse tuer. Hein? Donc si tu veux, le page c'est avant le service militaire, avant de pouvoir être soldat, en sachant qu'à cette époque on est soldat très jeune. Vous savez qu'à l'époque de Louis XIV, il y a des généraux nobles, hein, qui ont 16 ans, 17 ans. Hein? Donc le page c'est un gamin, alors que le valet c'est un adulte qui est au service de... Hein? Voilà. Et maintenant tu as... ici, c'est un page de comédie, et dont on voit qu'on a joué sur l'idée de ça n'est encore qu'un enfant, mais pas tout à fait. Ça peut devenir un homme, on le sent, puisqu'il est en train d'essayer de séduire. Alors, lui, il aime tout le monde, il le dit dans un passage. Hein. C'est l'ado, quoi. Il est amoureux, il dit que même des arbres, il est amoureux. Donc là, ici, il va être amoureux de Fanchon, la fille de ferme, la fille du jardinier. Il est amoureux de Fanchon. Alors là, ça va un peu plus loin avec Fanchon, parce que c'est plus facile. Hein? Il drague un peu Suzon, pourtant elle va se marier, il n'hésite pas. Mais il aime tout. Il est amoureux de tout ce qui est, même pas ce qui est féminin, puisqu'il dit qu'il est amoureux des arbres. Voilà, c'est une espèce de vague des passions, on ne peut pas dire romantique, parce que le romantisme, ça sera après, ça sera au siècle suivant. Hein. Donc il est amoureux de Fanchon, il est amoureux de Suzon, et il est amoureux de la comtesse. Voilà, il est en devenir. Et puis en plus, d'un autre côté, les femmes ne s'en méfient pas, puisque c'est qu'un enfant. Donc... ce qui lui permet de vivre au milieu des femmes, d'une certaine manière. On a ce thème-là, au début de du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, il y a le jeune Julien Sorel qui va être précepteur, c'est-à-dire prof des enfants de Madame de Rênal. Et quand elle l'accueille, bon, elle attend un vieux prof, un vieux barbon, grincheux, etc. Et Malti, c'est un enfant, c'est un gamin, et elle va se faire avoir, parce qu'il va la séduire. Hein? Donc, comme elle pense que c'est un enfant, elle ne prépare pas ses défenses, comme on prépare en face d'un adulte, et là, elle va se faire piéger comme ça. Et là, il y a un petit peu le même schéma avec la comtesse. La comtesse se méfie pas,